journal est présenté par Antoine de Necher.
Bonsoir. La contestation de la loi travail, François Hollande maintient sa fermeté tandis que les grèves se poursuivent, notamment dans les raffineries et dans plusieurs ports français. Nous irons au Havre où la grève est reconduite pour tout le week-end dans ce site hautement stratégique pour notre économie. Ça s'appelle les rendez-vous de Béziers, rendez-vous de la droite dite hors les murs, entendez hors des partis politiques comme les Républicains ou encore le Front National. Le rendez-vous vient de débuter sous l'égide du maire de Béziers, Robert Ménard. Y a-t-il un espace politique pour cette droite-là? Nous poserons la question au politologue Erwan Lecoeur. Il est notre invité en direct dans un instant. Jean-Claude Decaux est mort. François Hollande salue ce soir un entrepreneur français qui a fait rayonner l'économie de notre pays dans le monde entier. Le fondateur de JC Decaux avait inventé notamment l'abribus, la sanisette ou encore le vélib. Enfin, Omar Waman nous expliquera ce qui se joue actuellement à Mossoul en Irak, une des villes que la coalition internationale cherche à récupérer aux djihadistes de Daesh en Syrie et en Irak. Comment s'en sortir? Alors que la mobilisation contre la loi travail ne faiblit pas, la question devrait être au menu du week-end pour Manuel Valls, bien sûr, mais aussi pour François Hollande. De retour du Japon ce soir, le président de la République devrait réunir demain à l'Élysée son Premier ministre et les ministres concernés par cette crise afin de réfléchir à une sortie du conflit. François Hollande, qui d'ailleurs a été le destinataire tout à l'heure d'une lettre d'une quinzaine de députés socialistes frondeurs, il lui demande de reprendre le dialogue avec les opposants à la loi travail, car les grèves, je le disais, continuent, même si tous les dépôts de carburant ce soir sont débloqués, sauf un qui est toujours en grève dans les Yvelines. Les raffineries, elles, sont en grève. 6 sur 8 sont soit à l'arrêt, soit tournent au ralenti ce soir encore. Et puis, autre point sensible et stratégique pour l'économie, les terminaux pétroliers de la zone portuaire du Havre. La grève vient d'y être reconduite jusqu'à lundi prochain au moins. Emmanuel Valls y a pris une injonction pour faire redémarrer une partie de l'activité. Amélie Bonté.
Depuis ce midi, la raffinerie Exxon de Port-Jérôme, la troisième de France, et les aéroports parisiens sont de nouveau alimentés, malgré donc la grève des salariés reconduite en début d'après-midi. Manuel Valls a donné injonction à la direction de la CIM de faire redémarrer à minima le dépôt. Et c'est possible grâce aux 17 cadres de l'entreprise qui dorment sur place depuis lundi soir. Écoutez la déclaration de Franck Barbel, le secrétaire du CCE.
Ça fait partie des stocks stratégiques. L'injonction a été donnée à notre direction qui a voulu nous rencontrer avant de remettre en route au titre du dialogue social qu'on a nous en interne. À partir de maintenant, les gens à l'intérieur de l'entreprise assurent la sécurité du site. Nous n'assurons plus la sécurité du site. Le syndicat CGT CIM appelle à amplifier le mouvement sur tous les ports de France.
Depuis 4 jours, les grévistes de la CIM assuraient tout de même un minimum de sécurité sur ce site Céveso 2, charge désormais à ces 17 cadres de le faire en plus du redémarrage des installations. Mathias Jeanne de la CGT CIM.
Il va falloir le tenir, le dépôt à 17 personnes, il va falloir le tenir. On est quand même 260 normalement, donc je ne sais pas comment ils vont faire. Ça peut s'arrêter de lui-même aussi.
Ce sont donc 2 bacs sur une centaine qui vont redémarrer. Ça représente 180 000 mètres cubes de pétrole. C'est peu, dit la CGT, qui parle de quelques jours d'autonomie seulement pour les aéroports parisiens.
Un reportage signé Amélie Bonté à propos de cette grève reconduite à la CIM sur les terminaux pétroliers du Havre. Sachez qu'à Rennes, plusieurs militants anti-loi travail réoccupent ce soir une salle municipale dont ils avaient été délogés par la police il y a 2 semaines. Puis à Besançon, une visite de la ministre Myriam El Khomri aujourd'hui a donné lieu à une manifestation de 300 personnes. Sachez enfin que la Fédération Force Ouvrière des Transports et de la Logistique appelle à faire grève dans toutes les villes qui accueilleront l'Euro 2016 de football. À chaque jour, il y aura des matchs organisés. Manuel Valls, lui, va recevoir demain matin à Matignon les chefs d'entreprise des secteurs les plus touchés par la grève contre la loi travail, à savoir le secteur pétrolier, on en parlait, puis le secteur des transports. Le patron du MEDEF, Pierre Gattaz, a dénoncé une nouvelle fois aujourd'hui ce qu'il appelle des méthodes de voyous et d'irresponsables. Il appelle à résister au chantage des syndicats contestataires, tandis qu'à Nantes, justement, plusieurs organisations patronales, dont le MEDEF, organisait en milieu de journée un rassemblement contre ce qu'ils appellent des prises d'otages de l'économie. Écoutez une de ces chefs d'entreprise présentes, Karine Chénard. Elle dirige une PME de fabrication de fils de fer en Loire-Atlantique.
Au moment où on commençait à avoir un regain d'activité, et on est dans un secteur qui est plutôt sinistré depuis plusieurs années, on allait faire un mois de mai plutôt satisfaisant avec des commandes qui étaient revenues. Et là, faute de pouvoir livrer les clients parce que les transporteurs ne peuvent pas venir enlever nos marchandises, eh bien on va faire un mois de mai plutôt mauvais. alors que tout le monde était reboosté, tout le monde avait retrouvé le moral dans l'entreprise parce qu'enfin on avait retrouvé un niveau de commande satisfaisant. Et là, tout le travail que chacun a fourni dans le mois de mai ben, voilà, est un peu ruiné. Les salaires sont à payer ce mois-ci, tout a été produit. Et donc il y aura un décalage de trésorerie puisque les clients y paieront plus tard. Ce sont des transporteurs qui ne peuvent pas venir enlever nos marchandises. Ce sont aussi des approvisionnements en matières premières qui ne se font pas. Ce sont aussi des équipes commerciales qui ont perdu beaucoup, beaucoup de temps à chercher du carburant. C'est des diverses conséquences mais qui sont très pénalisantes et pour l'activité et pour le moral de tout le monde.
Voilà, à propos d'une chef d'entreprise nantaise recueillie par Jean-Baptiste Menanteau de France Bleu Loire-Océan. En politique, Dominique Régnier ne pourra plus siéger au conseil régional de Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon. Le conseil d'État, en effet, vient d'annuler l'élection du politologue qui avait mené la campagne pour le parti Les Républicains en décembre dernier au régional. Motif, le domicile de Dominique Régnier, situé en Aveyron, une chambre louée dans la maison de sa mère, a été jugé fictif. Or, on le rappelle, un tout candidat doit résider absolument dans la région où il se présente. Dans ce contexte social et politique très tendu, alors que plusieurs ténors de la droite dénoncent ce qu'ils appellent une chienlit généralisée en France, ceux qu'on appelle les tenants de la droite identitaire se retrouvent depuis cet après-midi et pour tout le week-end pour ce qui s'appelle les rendez-vous de Béziers. Bonsoir Erwan Lecoeur.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, politologue, spécialiste de l'extrême droite. Je précise hein, par ailleurs que vous travaillez pour la communication de plusieurs élus écologistes, dont le maire de Grenoble. Le maire de Béziers, donc Robert Ménard, il s'est fait élire en 2014 avec le soutien du Front National. Il entend lancer un mouvement citoyen aux confins d'une partie de l'extrême droite et d'une partie de la droite dite identitaire. Est-ce qu'il y a, selon vous, Erwan Lecoeur, un espace politique, justement, on va dire, entre le FN et les Républicains?
Oui, il y a toujours eu cet espace politique. À une époque, c'était Bruno Maigret qui pensait qu'il allait pouvoir l'occuper avec le Front National et qui, d'une certaine façon, marchait déjà dans les pas de ce que Robert Ménard essaie de constituer aujourd'hui avec sa femme, avec le magazine Valeurs Actuelles, avec un certain nombre de ténors de cette droite, je dirais culturelle, ou en tout cas qui se pense comme telle, et qui, dès les années 70, avait tenté de créer, avec cette nouvelle droite, on l'appelait comme cela à l'époque, quelque chose qui influerait sur les esprits. Et ils ont, d'une certaine façon, réussi, puisqu'on voit aujourd'hui que la France est gagnée par tout un tas de projets, d'idées identitaires. Et donc, Robert Ménard, aujourd'hui, essaie, de tirer des marrons du feu et de ne pas laisser à Marine Le Pen et à son Front National ou à la nièce de Marine Le Pen toute la place à la droite de la droite, on va dire.
Ce que vous dites ce soir, Erwan Lecoeur, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Robert Ménard, il n'invente rien.
Non, il n'invente rien. Il récupère des choses qui ont existé de très longue date. La droite a toujours été tiraillée entre plusieurs grandes tendances. On a parlé de la droite orléaniste, bonapartiste, de la droite plus traditionnelle, gaulliste éventuellement. Il y a toujours eu un certain nombre de droites, mais qui, à un moment donné, avaient, un élément central qui était le culte du chef. Et à un moment donné, la droite se trouvait un chef pour partir à l'élection présidentielle, qui était une élection très monarchique, très présidentielle, comme son nom l'indique. Aujourd'hui, avec Marine Le Pen, il y a une nouvelle droite qui s'est installée avec le Front National, hein, le père puis la fille, et Robert Ménard essaie, lui, de s'instiller quelque part entre le Front National et ce que les Républicains sont en train de devenir, c'est-à-dire un grand parti sans tête, sans chef, sans leader. Et donc là, il y a toujours des petites bribes à récupérer, et il se dit, comme Maigret en son temps, qu'il y aurait bien quelque chose à trouver du côté de cette droite conservatrice, ultra-libérale, bref, la droite de Valeurs Actuelles, la droite qui, à une époque, était giscardienne, est devenue frontiste à une autre époque, et puis aujourd'hui, qui ne se reconnaît plus tout à fait dans la ligne un peu trop sociale pour eux de Marine Le Pen.
Il y a quand même une nouveauté, peut-être entre-temps, et depuis les années 70, c'est quand même l'émergence et la réussite, il faut bien le dire, de la Manif pour tous, en 2013, qui a suscité des vocations.
Tout à fait. Et là, la Manif pour tous a bien montré que, depuis les années 70, la nouvelle droite, qu'on appelait comme ça à l'époque, avec le greffe d'un côté, hein, les identitaires d'un côté, le club de l'horloge de l'autre, c'est-à-dire des gens comme Maigret, comme Yvan Blot, comme des gens comme ça qui avaient rejoint le Front National, ont réussi leur, entreprise de gramschisme de droite. C'était le terme qu'on utilisait, c'est-à-dire le fameux théoricien Gramsci des années 20-30, emprisonné en Italie par Mussolini, qui disait qu'il fallait d'abord conquérir les esprits, la culture, le vocabulaire, avant de conquérir les urnes. Et ce gramschisme de droite qui a été mis en œuvre dans les années 70 et 80 par tout un tas de gens, donne aussi aujourd'hui ses fruits, bien entendu, à la fois pour les quatre traditionalistes qui étaient en tête lors de la manif de droite, on se souvient de Civitas notamment, mais aussi pour tous les autres qui gravitent autour de toutes ces petites familles de l'extrême droite. Parce que, je le rappelle, l'extrême droite, c'est au moins 11 tendances, voire plus. Rien qu'au Front National, il y en a 12 qui coexistent depuis les années 72, donc la création du Front National. Donc, Robert Ménard essaie de tirer, lui, son petit marron de son feu à lui, pour exister dans ce grand raout. Et il se dit, si la droite a grossi, alors peut-être que je pourrais, moi, exister à Béziers ou au-delà.
Une dernière question, je vous demanderai une réponse rapide. Erwan Lecoeur, vous parliez justement des chapelles, etc. Philippe de Villiers n'est pas là, Marine Le Pen n'est pas là, il n'y a pas de ténor des Républicains. Quelque part, c'est encore la guerre des chefs et la guerre des droites.
Bien sûr, c'est toujours et encore la guerre des droites. Elle a toujours existé, cette guerre des droites. On la connaît plutôt au sein de l'UMP ou de l'ex-RPR. On la voit maintenant dans un endroit où il y a désormais du grain à moudre. Le Front National a suscité plein de vocations autour de lui. Il y a les identitaires, il y a tout un tas de gens qui se disent pourquoi le Front National sera le seul à récupérer ce que nous avons contribué tous et toutes à édifier, c'est-à-dire une forme de droite très populaire, très dure, une droite très décomplexée. Et Robert Ménard en fait partie, bien entendu.
Merci beaucoup Erwan Lecoeur, sociologue, politologue, spécialiste de l'extrême droite, d'avoir été en direct dans ce journal de France Culture ce soir à propos des rendez-vous de Béziers. Bonne soirée à vous. Son nom vous dit forcément quelque chose. Jean-Claude Decaux est décédé aujourd'hui à l'âge de 78 ans. Decaux, le créateur des célèbres abribus avec panneaux publicitaires intégrés, ce grand patron discret qui faisait partie quand même des 10 plus grandes fortunes de France, a révolutionné le mobilier urbain en associant services publics et publicité, Cécilia Arbonnard.
C'est en faisant de la réclame pour le magasin de son père, en collant des affiches sur les murs de Beauvais, sa ville natale, que Jean-Claude Decaux découvre l'incroyable impact de la publicité. Il devient célèbre en 1964 en inventant les aubettes de bus. Elles permettent aux usagers d'attendre à l'abri du froid et de la pluie.
C'est un parapluie posé sur la voie publique qui doit être le moins opaque possible, le plus léger possible, parce que je prétends qu'un abribus, ça ne peut pas être très joli. Donc, la grande qualité d'un abri d'autobus, c'est qu'il soit le plus transparent possible.
Transparent, l'abribus devient pour Jean-Claude Decaux un moyen d'implanter sa gamme de mobilier urbain. Mais ça ne suffit pas à l'homme qui veut être le premier partout. Il consolide son empire grâce à un de ses passe-temps favoris. Amateur de vélo, le grand patron imagine la bicyclette en libre service. Nous sommes en 2005, naissance du Vélov à Lyon, qui deviendra ensuite le Vélib.
C'est un modèle où le client amène sa propre énergie. Personne n'a pensé à ça. Et les gens pensent que c'était un gadget au départ. Ils disent « Ah, mais c'est un gadget, ça. Vous allez voir si c'est un gadget. Vous allez en voir partout dans Paris. Si vous voulez, ça va être un succès colossal. »
« Je suis exigeant sur les détails », avait l'habitude de dire Jean-Claude Decaux, qui s'entourait de collaborateurs à son image, des cadres tirés à quatre épingles, costumes bien coupés, souliers bien cirés.
À l'étranger, les djihadistes de l'organisation État islamique sont sous la pression depuis plusieurs semaines d'une offensive menée par la coalition internationale conduite par les États-Unis en Syrie et en Irak. En Syrie, c'est le fief de Daesh à Raqqa qui est visé. En Irak, en plus de Fallujah, la coalition a fait de Mossoul au nord du pays son autre objectif, Omar Ouamana.
Oui, l'offensive des habitants de la région de Mossoul se poursuit et ce, depuis le 24 mars, date de l'offensive de l'armée irakienne, partie de Mahmour à 70 km à l'est de la deuxième ville du pays. Mais cette bataille pour reprendre Mossoul aux mains de Daesh depuis bientôt 2 ans a marqué un coup d'arrêt ces dernières semaines. Les nombreux villages de cette province de Ninive sont autant de bastions du groupe État islamique. Les voitures piégées et les mines ont freiné l'avancée de l'armée irakienne. C'est depuis le ciel que les avions de la coalition internationale, essentiellement américains, ont mené les attaques les plus meurtrières contre les djihadistes. Mais ces frappes ont provoqué l'exode de milliers de civils. D'abord en direction du nord de l'Irak, où les camps de déplacés de Dohuk et de Zaho sont déjà saturés. C'est la raison pour laquelle les habitants de Mossoul n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers la Syrie voisine. Mais la guerre de l'autre côté de la frontière est également une réalité quotidienne. Les combats font actuellement rage entre les djihadistes et les FDS, les forces démocratiques syriennes, une alliance de groupes locaux créée sous l'impulsion des États-Unis en première ligne pour tenter de chasser le groupe État islamique de la ville de Raqqa.
Et par ailleurs, la coalition internationale annonce ce soir avoir tué 70 combattants djihadistes à Fallujah, dont le commandant local de Daesh. Un chiffre impressionnant, plus de 2000 migrants ont été secourus en mer pour la seule journée d'aujourd'hui au large de l'Italie. Des chiffres chiffres livrés par la marine italienne qui indique également avoir repêché 45 corps de migrants aujourd'hui. La météo, le risque orageux va s'étendre sur l'Hexagone demain. Les nuages et les averses ponctuellement orageuses seront installés en fait dès le début de la journée, de la Haute-Normandie à la frontière belge, ainsi que du nord-est à l'Aquitaine, et vont s'étendre à partir de la mi-journée à une grande partie du pays. Il fera le matin entre 9 et 16 degrés, puis les maximales dans l'après-midi s'étaleront entre 20 et 25 degrés, et même jusqu'à 29 degrés en Provence. Merci à Meta Titeya pour son aide, et puis à Myriam Guillot à la prise de son.